Chapitre 23. Anna. Lorsqu'Hansen ferme la grille de séparation et nous dit au revoir, chacun est inquiet mais s'efforce de ne rien montrer, afin de préserver une atmosphère sereine. Koum se risque tout de même à une blague qui nous fait rire jaune. Vous imaginez, s'il y avait déjà quelqu'un à l'intérieur, genre un tueur sanguinaire, dans ce cas, on vient de nous enfermer avec lui. Nabila répond instantanément. Qu'est-ce qu'il est couillon, celui-là? Tu me flanques les jetons avec tes bêtises. Parce que le pire, c'est que t'as pas tort. Hein. Enfin, on a quand même laissé Hansen à la porte, c'est déjà ça. Les hommes se regardent, puis Diego demande « Pourquoi tu dis ça? Ted est très sympa. Mais franchement, il ne ménage pas sa peine pour nous aider. » J'interviens, tout en lançant un regard courroucé à Nabila, qui détourne les yeux, consciente d'avoir légèrement cassé l'ambiance. On ne voulait pas vous inquiéter. Et puis, Diego, on ne voulait pas que tu te sentes mal d'avoir invité Hansen, mais... Et je commence à raconter la visite de Sarah Miller, les accusations contre Ted, et ce pacte sororal de vigilance que Bérénice, Nabila et moi avons respecté à la lettre. Les trois hommes sont évidemment furieux que nous leur ayons caché une telle information. Mais ils conviennent qu'il aurait été délicat de demander à Ted de quitter l'île sur la base d'une affaire vieille de 30 ans pour laquelle il n'a jamais été condamné. Et qu'ils auraient sans doute abouti à la même conclusion, rester en alerte et ne jamais laisser l'une d'entre nous seule avec lui. En gros, on s'est juste dit qu'on n'avait pas besoin de vous pour nous défendre. Et c'est surtout ça qui vous vexe, les mecs. C'est donc sur cette sentence de Nabila et les mines agacées de nos coéquipiers que se conclut cet aparté. Une fois le silence revenu, nous prenons la mesure de l'expérience qui nous attend. L'obscurité est totale. Le taux d'humidité de 100%. La température de 11 degrés. Nous devons marcher 5 km avant de parvenir au point d'installation de notre camp. Et nous n'avons plus de moyens de communiquer avec l'extérieur, à part ce téléphone que nous venons de laisser sur la grille. Un frisson me parcourt. Devant moi, un boyau de 2 mètres de large, entièrement noir. J'ai la gorge sèche, le cœur qui s'emballe. Je ne suis plus certaine d'avoir eu raison d'accepter cette escapade souterraine. Mais la réalité est là. Nous sommes désormais seuls. La progression jusqu'au kilomètre 7 est facile. Chacun est attentif à l'autre, notamment à Diego, ce qui, à mon avis, ne va pas tarder à l'irriter. Il ferme la marche, un peu en retrait, tandis que je suis en tête de cortège, comme si nous avions tacitement décidé de nous éloigner physiquement. Tant mieux, après ce qui s'est passé hier soir à l'observatoire, je n'ai aucune envie de me frotter à l'animal. Je lui ai raconté mon histoire sans rien lui cacher, et il est resté immobile et silencieux. Je ne m'étais pas livrée comme cela depuis des lustres. Non, en réalité, je ne m'étais jamais livrée comme cela. À personne. Pas même à François à l'époque. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai décidé de tout lui dire. Sans doute parce que son histoire m'avait bouleversée. Ou parce qu'il me plaît bien plus que je ne me l'avoue. Et que je voulais qu'il me connaisse, sans phare ni faux semblant. Comment se faire confiance et construire le moindre début de relation sinon? Alors, assise à ses côtés face à ce ciel ruisselant d'étoiles, je me suis timidement rapprochée, le cœur battant. Et lui n'a rien trouvé de mieux que de se barrer. En résumé, je me suis inventé une connexion qui n'existait pas. Une connexion qui n'a jamais existé. Comment le pourrait-elle? J'ai 48 ans, des rides au front, 3 enfants, dont un mort. Il a 35 ans, un physique de dieu grec et la vie devant lui. Quelle naïveté! Bref, oublions ça et revenons au présent. Et à cette expérience hors du temps dans la Cueva dell'Infierno. Hors du temps est le mot juste, car nous avons abandonné nos montres et téléphones. Il est convenu que nous évaluons par nous-mêmes l'écoulement des heures, afin de sortir de la grotte lorsque nous penserons y avoir séjourné 2 jours très exactement. Hansen a poussé le raffinement jusqu'à modifier les paramètres des seuls appareils électroniques en notre possession, caméras et appareils photo, pour en effacer l'horodatage automatique. Hansen campera, accompagné de 2 salariés du site, devant l'entrée de la grotte, afin de nous venir en aide à tout moment si besoin est. La progression dans le tunnel principal est ralentie par le bac de toilette, poétiquement baptisé « shitbox » par Nabila, particulièrement délicat à manipuler, surtout avec nos équipements de spéléo. Aussi, à l'instant où nous arrivons à la grande esplanade que nous identifions comme le lieu où installer notre camp, j'estime qu'un peu plus de 90 minutes se sont écoulées, tandis que Com est persuadé que nous marchons depuis 2 heures. À ce rythme-là, s'aligner sur une perception commune du temps risque d'être mission impossible. Le sol est sec, nous déposons nos sacs et nous asseyons pour une pause bien méritée. Le silence se fait. Absolu. Contrastant étrangement avec l'écho de nos conversations dans la cavité quelques instants auparavant. Les faisceaux lumineux des frontales fixés à nos casques balaient les parois et je me rends compte de l'immensité de l'espace où nous nous trouvons. J'ai l'impression qu'une cathédrale pourrait tenir dans cette grotte dans la grotte. 3 ouvertures desservent le lieu, en plus de celle par laquelle nous sommes arrivés. C'est conforme au plan que nous avons en main. 2 d'entre elles débouchent sur des galeries déjà explorées, la 3e sur un réseau non cartographié. Si nous voulons nous rendre réellement utiles, nous devrons sans doute nous aventurer dans celle-ci. Aucune consigne ne nous a été donnée en ce sens. Nous pourrions très bien nous contenter des sites balisés. Mais j'avoue que j'en éprouverais une certaine frustration. Quitte à explorer, autant explorer vraiment. Nous installons nos tentes individuelles en un large cercle, au centre duquel nous entreposons le matériel d'exploration, l'eau et les rations déshydratées de l'armée. La shitbox sera, quant à elle, le plus loin possible de nous. L'objectif fixé à l'issue des 48 heures est d'avoir identifié un minimum de 50 espèces animales, autant d'espèces végétales, et répertorié 100 inscriptions murales. Il ne faut pas chômer, et nous devons nous répartir les tâches, sinon nous n'y arriverons pas. Les débats prennent une éternité. Tout le monde est partant pour recenser les glyphes muraux dans les cavités déjà cartographiées. Mais bizarrement, le recensement de la faune dans les couloirs inexplorés rencontre moins de succès, certains refusant catégoriquement de se frotter à la fameuse blatte sans yeux. Les tempéraments se révèlent. Là où Axel est trop brusque, et Nabila pas assez sérieuse dans sa manière d'aborder ses congénères, Diego est un excellent communicant, à l'écoute sans pour autant renoncer à l'équité. Dans cet environnement anxiogène, Bérénice a repris ses vieilles habitudes avec Com, lui demandant sans cesse s'il va bien, s'il ne manque de rien, ce qui nous vaut des sketchs mère-fils qui seraient drôles s'il ne nous faisait pas perdre un temps précieux. Quant à moi, je note scrupuleusement les décisions prises, tout en m'efforçant de distribuer la parole. Il nous faut à vue de nez une bonne heure pour organiser un planning tournant, qui sera complexe à faire respecter du fait de l'absence de repères temporels, mais qui nous obligera à changer de coéquipier à chaque mission. Tout ça semble réglé au millimètre, mais dès le premier tour, le planning vole en éclats, les binômes ayant une notion du temps très différente. À l'issue de cette première journée, chacun de nous aura effectué 2 missions. Je commence avec Com, l'atelier faune. Nous chassons la mythique blatte sans la trouver, mais rencontrons de nombreuses chauves-souris, quelques mulots étrangement livides et un nombre impressionnant de vers et coléoptères. Malheureusement, nous estimons avoir vu moins d'une 15aine d'espèces sur les 50 attendues. Mon atelier végétal de l'après-midi avec Nabila se révèle amusant et efficace, et nous nous apprêtons à rentrer au camp quand elle pousse soudain un cri strident qui me déchire les tympans et résonne dans toutes les galeries, provoquant des « Tout va bien ?» affolés de nos camarades.
« Elle est là ! Mon Dieu, Anna fait quelque chose !»«
Calme-toi, respire. De quoi tu parles ?»«
La blatte sans yeux, elle est là !»
Nabila est dans tous ses états, recroquevillée contre une paroi à la limite de l'hyperventilation, mimant des petites antennes sur la tête avec une grimace censée représenter la monstruosité de la bête. Je sais que je ne devrais pas, qu'il faut respecter les phobies de chacun, mais la voir là, s'agiter dans le faisceau de ma frontale tandis qu'au sol, une unique blatte inoffensive de 3 cm avance tranquillement, je ne peux me retenir d'éclater de rire.
« Ah bah merci !» Quand on a une amie comme toi, on n'a pas besoin d'ennemis. Je t'en supplie, fais-la partir et arrête de ricaner, bougre d'andouille. Attends, il faut que je la prenne en photo avant.
Tandis que Nabila garde les yeux fermés, j'ai tout juste le temps de faire une image avant que notre indésirable bestiole des profondeurs ne se carapate.
C'est bon, elle est partie. Merci. Je déteste les blattes. C'est physique, ça me flanque des palpitations.
Je la fixe, puis lui murmure. Je te conseille tout de même de bien vérifier ton sac de couchage avant de t'y glisser cette nuit.
Oh pétard, j'y avais pas pensé. Je vais pas fermer l'œil.
Au milieu de cet épisode loufoque, je note que c'est la première fois que Nabila utilise le terme « ami » à mon propos. Lors du rassemblement du soir, après avoir avalé une ration alimentaire bien trop insipide pour y passer plus d'un quart d'heure, nous faisons le bilan de nos trouvailles. Concernant les espèces végétales et animales, nous sommes plutôt dans les temps pour atteindre les objectifs, dans la mesure où la deuxième journée de travail devrait être nettement plus efficace. Ceux qui pêchent, c'est le recensement des inscriptions murales. Seules une petite vingtaine ont été photographiées et correctement cartographiées, ce qui occasionne de fortes tensions entre les deux groupes ayant travaillé sur le sujet. Le deuxième, Diego et Combe, accusant le premier, Bérénice et Nabila, d'avoir fait n'importe quoi et de ne pas avoir suivi la procédure sur laquelle nous étions d'accord. Le ton monte, surtout entre Combe et sa mère, Diego et Nabila s'efforçant de prendre du recul. Mais il devient très vite clair que cette histoire de recensement est le prétexte saisi par le discret Combe pour régler ses comptes. Je ne le reconnais pas, et je crois que sa mère non plus.
Tu n'écoutes jamais personne. Tu n'en fais qu'à ta tête, tout le monde doit se plier à ce que tu as décidé. Mais tu vois, les autres ne sont pas des débiles, ils ont leur libre arbitre, des idées. Eh bien, figure-toi que les autres en ont marre.
Bérénice est muette, comme paralysée. Au fur et à mesure de l'éructation de son fils, son visage est devenu blême, et Combe n'en a pas terminé.
Les autres voudraient que tu les laisses respirer, que tu arrêtes ton ingérence dans leurs décisions ou dans la couleur de leurs vêtements. Parce que les autres, ils en ont ras-le-bol que tu veuilles contrôler leur vie. Et les autres, bordel, les autres sont adultes, ils font ce qu'ils veulent avec qui ils veulent. Personne ne vient te faire une réflexion sur le fait que tu couches avec Axel. Eh oui, on est tous au courant ici. Et tu sais quoi? On s'en fout, parce que tu fais ce que tu veux. Alors pourquoi, quand les autres couchent avec Nabila, tu viens leur dire ce que tu en penses?
Nabila et Axel ne savent plus où se mettre. Et Diego et moi sommes extrêmement gênés par ce grand déballage. Dans cette obscurité et cette promiscuité, les sentiments sont exacerbés, c'est vrai. Mais mon cœur de mère souffre pour Bérénice qui s'est mise à pleurer. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Mais je crois que chaque parent fait avec ce qu'il est, avec ce dont il est capable. Bérénice l'a peut-être étouffée, mais Combe est aussi un jeune homme brillant, intéressant. Bérénice est loin d'avoir tout foiré. Et puis moi qui n'ai pas eu de mère, j'aurais donné tout ce que j'avais pour en avoir une comme elle. Je m'approche et la prends dans mes bras. Réflexe de louve. Combe, qui vient de lâcher en quelques minutes 25 années de frustration et de non-dit, semble soulagé. Mais il se rend rapidement compte qu'il y est allé un peu fort. Alors en l'espace de quelques minutes, il redevient lui-même. Il prend ma place dans les bras de sa mère, lui présente ses excuses, lui chuchote quelques mots que nous entendons parfaitement dans cette caverne à l'écho démesuré.
« Je n'ai plus 4 ans, maman. » Je sais que tu te sens souvent seule, mais tu ne peux pas contrôler ma vie. Tu ne peux pas me garder près de toi tout le temps. Tu sais, si je t'ai pas parlé de ma candidature à ce recrutement d'astronaute, c'est parce que, pour une fois, je voulais faire quelque chose par moi-même. J'arrive à un âge où il faut vraiment que je vole de mes propres ailes, tu comprends?
Bérénice acquiesce, il continue.
Je ne veux pas couper les ponts. Juste couper le cordon. Je sais que ça va être difficile pour toi, mais j'ai pris la décision de déménager à notre retour en France. Je vais louer mon propre appartement et tu vas me laisser gérer l'entreprise sans intervenir, sans juger ni révoquer mes décisions. Si tu ne t'en sens pas capable, alors je préfère te rendre les rênes et trouver un autre job. Je le dis sans animosité, j'en ai juste besoin, maman, tu comprends ?
Bérénice acquiesce de nouveau. Mais cette fois, j'aperçois un léger sourire et sa réponse arrive dans un souffle.
Je veux que tu sois heureux. Alors si c'est ce que tu souhaites, bien sûr que je vais te laisser faire. Je vais même te soutenir. Et puis, je vais arrêter tout de suite cette candidature idiote pour l'espace. Non, surtout pas, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis heureux de partager tout ça avec toi. Il faut juste trouver la bonne distance entre nous, une distance adulte.
En guise de conclusion, j'avais prévu une petite initiation au rudiment de la spéléo, mais je crois que l'épisode Bérénice Côme a sonné la fin de cette journée. Maintenant que les couples sont révélés, Nabila demande à Côme de venir dans sa tente, afin, entre autres, de la protéger d'une éventuelle intrusion à six pattes dans son sac de couchage. Je somnole un temps, et puis je me réveille naturellement, gênée par l'inconfort du matelas autogonflant et par ce froid qui me pénètre les os en dépit des couches de vêtements. Je n'ai aucune idée de l'heure. Quand nous nous sommes couchés, les estimations allaient de 22h à 1h du matin, et maintenant, on ne peut tout bonnement plus savoir. Lorsque j'ouvre les yeux, le noir est complet. C'est une sensation très étrange. Il est quasiment impossible dans nos vies modernes d'être plongé dans une obscurité aussi pure. Cette absence d'informations lumineuses est déroutante, mais c'est si exceptionnel que je reste quelques instants à observer le néant. Je trouve ça beau, curieusement. Je me concentre sur mon rythme cardiaque, ma température corporelle et les sons extérieurs, la respiration de mes voisins, quelques gouttes qui tombent au loin à intervalles réguliers, parfois des bruissements ou de petits cris indiquant une présence animale. Je n'ai pas peur. Je me sens bien. J'en suis là de mes considérations lorsque j'entends le zip d'ouverture de l'une des tentes. À la localisation, je comprends qu'il s'agit de Diego. J'hésite un instant et puis je décide de le rejoindre. Ce jour-là, l'isolement dans une cellule de l'armée. Toutes sortes d'images terribles défilent dans ma tête. L'attente et l'incertitude sont insupportables. Au bout de 5 heures, on m'emmène dans un bureau avec un haut gradé dont je ne comprends pas tout de suite le titre. Il faut dire que le stress et la confusion règnent en maître dans mon cerveau. Le grand chef parle lentement afin que je saisisse bien ce qu'il est en train de me dire. Il s'adresse à moi sur un ton solennel, rempli d'autorité et surtout rempli de menaces. Il est question de ma responsabilité, de mon engagement absolu à ne jamais parler, de secret défense et de trahison nationale, de malheur qui pourrait s'abattre sur moi ou sur mes proches. La terreur s'insinue dans mes muscles, rampe sous ma peau. Un silence poisseux s'installe. Et puis mon interlocuteur esquisse un sourire artificiel et me demande si j'ai bien compris. Il ne voudrait pas qu'il y ait le moindre malentendu. Je hoche la tête en tremblant. Tout est parfaitement clair.